Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale, aujourd'hui avec une championne exceptionnelle. Et oui, sur Fréquence Diagonale, c'est la championne de France en titre en juillet 2015. Elle est encore championne de France. Elle a gagné deux fois de suite, c'est Nino Maizoradze. Bonjour Nino.
Bonjour.
Alors Nino, tu es avec nous en direct depuis la Géorgie, où tu passes quelques moments de repos avant de préparer ton championnat de France 2015.
Oui, oui.
Et alors évidemment, on a envie de te connaître plus, on a envie que les auditeurs connaissent un peu mieux ton parcours. On a vu tes résultats exceptionnels ces dernières années, on va y revenir dans l'émission bien entendu. Mais tout d'abord, comment t'es venu au jeu d'échecs? Comment ça s'est passé? Comment t'as appris à jouer?
Ben, comme vous savez, je suis née à Tbilissi, en Géorgie, donc c'est là que je me suis initiée, assez tôt. C'est-à-dire, il y a mon père qui m'a montré les déplacements à partir de 3-4 ans, en fait, même. Donc, je crois qu'il y a 4 ans, je savais réellement les règles de jeu d'échecs. Comme quoi, ceux qui posent la question d'habitude, à quel âge il faut apprendre à un enfant un jeu d'échecs, c'est possible assez tôt. Et puis, ben, à partir de 6 ans, donc c'est mon père qui m'a amené dans un club d'échecs, près de chez nous, en fait. Et à part ça, parfois, j'ai passé dans un parc, également pas très loin de maison, où j'ai joué contre les retraités, en fait, à l'âge de 7 ans, on va dire, 8 ans, comme ça, juste pour s'entraîner. Et puis, bah, voilà, ça s'est démarré à peu près comme ça. À vrai dire, dans le club, j'ai pas appris beaucoup de choses, puisque tout simplement, on jouait contre les autres enfants, mais plus tard, j'ai été transférée dans un palais d'échecs. Palais d'échecs à Tbilissi, ça signifie c'est un endroit où tout est concentré, siège fédéral, tous les tournois, les salles, enfin tout ce qui se passe aux échecs, tout se passe au palais d'échecs. Mm-hmm. Et là-bas, j'ai été prise plus sérieusement en charge par un entraîneur plus réputé, en fait, Mathieu Rachouli, qui m'a vraiment formée, on va dire, jusqu'à 9 ans à peu près. Et puis, bah, c'est un peu l'âge qu'effectivement j'ai sérieusement commencé à jouer.
Alors, ça c'est très intéressant, puis ça nous questionne aussi en France, ici, cette Géorgie qui est assez magique, parce que c'est un très très grand pays d'échecs. Hein. Tu peux nous rappeler quelques champions géorgiens?
Oui, bien sûr.
D'exception?
Oui, effectivement, les échecs, c'est pris très au sérieux en Géorgie. C'est considéré comme le sport. Et puis, il y a vrai soutien des gouvernements, du ministère du sport, etc. Et on a en plus les champions comme Nona Kaprindashvili, qui était 5 fois championne du monde. Oui. Et aussi Maya Thibaudanidze, l'autre femme, également 5 fois championne du monde. Mm-hmm. Donc ça nous fait 10 fois le titre de championne du monde pour la Géorgie, par oui. Les femmes. Et donc ça a bien boosté effectivement, un peu comme pour Norvège à partir de Carlsen. Pour nous, c'était un peu Kaprindashvili qui a boosté les échecs, entre autres. Mais je pense aussi à certaines influences comme Lénine qui aimait les échecs dans l'Union soviétique alors que la Géorgie faisait partie de l'Union soviétique. Ça a aussi beaucoup joué pour le développement des jeux dans mon pays, en fait.
Oui.
Et donc voilà, le moment où effectivement mon père m'amène aux échecs, j'étais vraiment, enfin, c'était rien d'anormal. Il y avait beaucoup de filles qui jouaient aux échecs, pas que des garçons. Et il y avait une sorte d'euphorie par rapport à justement ce titre que Kaprindashvili a obtenu, au point que dans mon pays, certains parents appelaient les enfants Nona juste pour, oui. Voilà, pour nommer comme le grand champion.
Et oui.
Donc c'est un peu inimaginable, je pense, au niveau de France, ce type de choses. J'imagine, je ne sais pas, quelqu'un qui appelle son enfant Maxime ou Marie ou un truc comme ça pour Étienne, pour un grand champion.
Oui, alors ça nous fait penser aussi cet exceptionnel pays. On va y revenir parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, l'histoire du jeu et cette dimension particulière qu'a la Géorgie. Et ça fait penser aussi aux Pays-Bas, qui sont un petit pays et qui ont eu un champion du monde, Max Heuve, et qui ont aussi toujours des grands maîtres d'échecs d'exception. Pour un pays comme la Géorgie, qui n'est pas forcément effectivement très très grand, un titre de champion du monde dans une catégorie aussi prisée que le jeu d'échecs, forcément c'est un grand événement. Mais alors particulièrement en Géorgie, c'est les femmes qui tiennent le haut du pavé avec, comme tu l'as dit, 10 titres de champion du monde féminin. Donc, comme tu disais, il y a toujours beaucoup de jeunes filles qui jouent aux échecs. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'avoir comme ça des exemples féminins aussi forts, aussi présents dans la médiatisation en Géorgie, est-ce que ça joue sur la parité,
oui.
Des joueurs?
Oui, je pense que forcément, parce que justement, elles sont un peu admirées, évidemment, ce sont des grandes sportives. La presse parle sans arrêt d'elles, même actuellement, nous, on a effectivement une championne d'équipe championne du monde, effectivement, les filles, les jeunes filles, donc elles sont vraiment enfin, très très médiatisées partout, tout le temps. C'est quasiment quotidien dans les journaux, télé, partout. Ça joue effectivement sur les mœurs. Et parce que en fait, c'est vraiment une chose qui manque beaucoup à la France, même si on commence lentement à se développer à ce sens aussi. Et puis aussi, le fait que c'est pris sérieusement, en fait, c'est-à-dire au niveau des regards des gens déjà. En France, c'est récent, ça commence maintenant, là, encore une fois, voilà, justement, d'être pris au sérieux, puisque ils ont mis aussi dans les écoles, les gens connaissent mieux c'est quoi les échecs. Mais par exemple, il m'est arrivé que je suis en France, et quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu jouais, c'était Pokémon, ou c'était poker, ou c'était quoi. Alors qu'en Géorgie, il n'y a personne qui va comparer les échecs avec ça, ils vont te dire, c'était quoi, tu étais sportive, est-ce que c'était tennis, ou je ne me rappelle plus, ou c'était natation, ou... Donc c'est vraiment une différente approche, en fait. Et puis, en fait, la différence, effectivement, c'est aussi que il y a c'est une vraie carrière au sens où, par exemple, les membres d'équipe nationale, ils sont salariés sur l'année. Donc, ils ont différents salaires par rapport à équipe ou par rapport au titre de l'année comme champion du pays ou par rapport à championnat de, régional, etc., etc. Donc, il y a quand même plusieurs salaires et c'est une structure plus quand même... comment dire, plus solide qu'en France où il n'y a rien à faire effectivement comme structure malheureusement pour le moment. Et c'est juste basé en France uniquement sur les gains en fait et sur les annulations internationales qu'on a heureusement beaucoup. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on vit en fait.
D'accord. Alors donc plus de jeunes filles qui jouent aussi, hein, c'est ça?
Oui, parce qu'à mon avis en fait, pour un parent c'est important que, par exemple en France, même les filles assez douées, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas trop risqué qu'elles suivent les échecs? Parce que c'est quoi, après, dans le futur, supposons qu'elles ne suivent pas, en fait, école ou université, en plein temps, etc., pour faire les échecs, après, c'est trop risqué, parce que, voilà, s'il y a un système créé qui existe, qui dit, votre fille, c'est réellement bon, elle sera salariée, par exemple, elle sera quelque chose, ou elle sera comme cette grande champion. Ça donne quand même envie, alors que si on leur dit, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'on propose, à un moment donné, bah, ça se décroche forcément.
Oui, d'accord. Alors, avec cette double connaissance que tu as de ces deux pays, Géorgie, France, tu as donc forcément eu cette double carrière avant de venir...
Devenir
en France. Et en Géorgie, tu as obtenu des titres ou des résultats dans les catégories jeunes aussi?
Oui, pour commencer, j'étais réellement une des favorites de mon enfance, déjà à partir de moins de 10 ans, parce qu'à l'époque, nous, ça n'existait pas moins de 8 ans. Même en fait, à 7 ans, j'ai dû jouer même moins de 12 ans, parce qu'au départ, il n'existait pas la catégorie moins de 10 ans en Géorgie. Donc, j'avais une concurrence très très forte, effectivement, parce qu'à 7 ans, j'ai dû jouer les joueuses à 11 ans, 12 ans.
Oui.
Mais malgré ça, en fait, effectivement, j'étais une des favorites, et j'étais quasiment tout le temps dans le top 3 du championnat national, dans toutes les années quasiment, donc terminant en première, deuxième, troisième place. Et je suis les échecs assez sérieusement, je sais même plus jusqu'à quel âge exactement, parce que on dira vers 12 ans, enfin jusqu'à 12 ans, 13 ans au moins, je suis effectivement sérieusement les échecs, parce qu'après on a eu beaucoup de complications avec la guerre civile et la crise économique provoquée par cette guerre, où on a eu beaucoup de problèmes en fait réellement pour continuer à s'entraîner ou quoi que ce soit dans les conditions normales, quoi. C'était quasiment impossible vu qu'il y avait réellement danger de vie tout simplement pour sortir dans la rue, etc. Donc c'était pas vraiment les temps des échecs et c'est là que je me suis un peu effectivement décrochée. Et malgré ça, pour te dire Stéphane, donc mon premier grand sortie sinon c'était en avant. Déjà en avant j'ai été sélectionnée en équipe de Géorgie pour représenté dans un des grands tournois internationaux à Bucarest, l'équipe de Géorgie, où on a gagné la première place dans un très grand Open international par équipe. Et en fait, on était sélectionné par rapport à un meilleur enfant de moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans, etc., moins de 18 ans. Mm-hmm. Et donc, j'étais moins de 10 ans.
D'accord.
Oui, et etc. Donc, j'avais quelques tournois comme ça, comme international, malgré la difficulté financière que l'État a eue à ce moment. Donc, j'étais pas forcément dans une génération très heureuse. Et malgré ça, quand même, on a eu justement quelques joueuses qui ont quand même réussi. Plutôt, à vrai dire, la génération qui était juste 12 ans moins, 3 ans moins, elles ont eu encore plus de succès, comme, je ne sais pas, Lela Djaorchvili ou Zagnidze, ou enfin, ceux qui jouent aujourd'hui, hein, par exemple, en équipe. Notre génération a un peu plus souffert par rapport à la situation dans le pays, mais bon, enfin, on est quand même sorti un petit peu. J'ai eu quand même cette participation aussi à, comme je disais, championnat moins de 16 ans mondial qui s'appelait Olympiade individuelle, et j'ai terminé 5e là-bas. J'ai eu également participation dans une sorte de championnat de l'Union soviétique, même si c'était déjà du Solu, ils ont fait quand même reconstitution. J'étais qui faisait partie et c'était une très très forte participation. Tous les jours, certains grands maîtres que je croise, les filles, les stars, quand j'étais enfant, effectivement, ils faisaient partie de cette génération aussi. Et là, j'ai terminé 3e place. Donc, j'avais quand même quelques résultats comme ça au niveau mondial, en fait. Et puis, bah, comme je disais, je ne pouvais plus m'entraîner. Et en plus, à partir de 16 ans, donc, je suis rentrée à l'université pour faire droit international. Et je me suis dit que bon, par rapport à tout ce mélange, une situation très compliquée réellement dans le pays, enfin, c'était peut-être un bon choix de juste poursuivre les études normalement et faire quand même voilà, ma carrière assez sans souci. Donc c'était une période où je ne m'entraînais plus du tout, mais par contre j'avais joué quelques tournois. Donc si quelqu'un regarde par exemple sur ChessBus, il va voir que je pense que vers 15 ans, 14 ans, j'étais déjà classée presque 2200. Donc genre 2150, 2180, je crois, à un moment donné. Et puis, malgré mon entraînement vers 17, 18 ans, voire 16 ans, 17 ans, c'est là que j'ai fait aussi une norme de maître international féminine.
Oui.
Malgré, non, sans entraînement, mais en fait, j'ai sorti de l'université, j'ai joué un tournoi ou deux tournois, et puis bah, j'ai fait de non. Et là, je suis montée à 2200 à un moment donné. Donc, donc comme quoi, en fait, le niveau était quand même, dès le départ, vu que je me suis beaucoup entraînée dans mon enfance. C'était assez important quand même, je pense.
Oui, ça reste.
Oui. Et puis, j'avais une grosse arrêt, donc, avec toutes les situations. Donc, et en plus, je faisais mes études, donc j'avais pas autant de temps. Et mon retour, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mon retour aux échecs, c'était presque accidentel, par hasard en fait. Je ne pensais même pas que je jouerais encore aux échecs un jour, parce que je pensais que je tout simplement commencerais à travailler en tant que juriste en Géorgie. Mais ma vie privée a fait une sorte que c'était hasard que finalement j'ai dû me déplacer en France. Et puis j'étais étudiante à l'Alliance française d'abord pour apprendre la langue française, et puis j'étais à Paris d'eau à Assas pour continuer mes études, donc j'étais également occupée, mais malgré cela, en fait, juste en 30 ans, ça me manquait de jouer, donc j'ai repris les échecs comme ça, en fait, en France, grâce à la France, donc.
D'accord, et c'est là...
Et puis ça s'est très bien passé, ça m'a beaucoup plu, et ouais. Je sais pas, et c'est comme ça que c'est parti, en fait.
Et c'est à partir de là que tu vas commencer à aimer la France, à t'y installer un petit peu, et puis à... c'est en quelle année ça?
C'est à partir de vers 2003-2004, donc ça s'est passé. Et puis, à vrai dire, j'ai recommencé à jouer un peu presque comme amateur, au sens où je ne m'entraînais toujours pas et j'ai juste commencé à faire les Open en fait de temps en temps.
Oui.
Et je crois qu'à peu près à un moment donné, dans 6 mois, j'ai gagné 100 points de classement, à peu près un truc comme ça en fait.
Oui.
Donc j'ai rapidement remonté mon classement et même dépassé ce que j'avais avant. Donc. Et puis c'était à l'époque j'ai joué dans un tout petit club à Arpajon avec les jeunes adorables. Donc j'ai fait un ou deux ans, je ne me rappelle plus. Jusqu'à ce que les jeunes me remarquent en France, en fait, parce que moi-même, j'ai pas du tout pensé à chercher quoi que ce soit. Et puis, c'est Evry qui m'a repéré à l'époque, donc Evry Grandrock, le club,
oui.
Qui était champion de France, et qui m'ont proposé un certain contrat pour que j'aille chez eux et pour que je joue un peu plus sérieusement, donc aux échecs.
D'accord, donc ça s'est fait dans ces circonstances-là. Tout à fait intéressante. Tu t'es fait repérer en continuant au départ, en revenant, en jouant comme amateur, et puis ton classement donc qui s'est revalorisé, et puis ça s'est vu, ça s'est fait remarquer. Et donc, alors ça c'est intéressant parce que ça nous amène jusqu'ici. Je crois que tu as très bien résumé, je pense. Hein, je crois qu'on a une bonne idée de ton parcours. Et là, tu arrives en France, donc tu vas devenir française en 2009.
Hein, oui, 2008-2009.
2008-2009. Et alors, à partir de là, tu deviens pleinement française. Et donc, ça y est, tu as décidé dans ces années-là de te lancer dans une carrière professionnelle, en fait. Hein.
Oui, on peut dire comme ça, en fait. Parce que En fait, parfois, je dis que je suis tout de même semi-professionnelle au sens où quelqu'un qui arrête les échecs pendant, je ne sais pas, 6-7 ans d'entraînement, quelque part, on ne peut pas non plus décrocher les étoiles, en fait, je ne sais pas. On ne peut pas devenir Paul Gara avec ce résultat, par exemple, parce oui. qu'il faut vraiment travailler 8 heures par jour au moins. Mais en tout cas, vu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dans mon enfance, c'est vrai que j'avais très bonne base et j'ai quand même réussi à construire quelque chose là-dessus. Et bah, bizarrement, oui, ça s'est bien passé, mon reprise, comme on a vu. Parce que c'est après cette reprise, après tout, que je deviens grande maître féminine, que j'ai gagné les tournois internationaux en Croatie, par exemple, pour effectuer mes normes. Et donc, etc., etc. J'ai même fait donc plusieurs noms de maîtres mixtes, donc j'ai le nom, on va dire.
Oui.
Et j'ai gagné plusieurs Open aussi, j'ai gagné des Open au Canada par exemple, j'ai gagné à Paris aussi un Open, enfin j'ai gagné partout, je sais pas, enfin pas mal de tournois aussi.
Et concernant donc, les normes de maître oui. de maître mixte, tu en as eu combien?
Donc là, je crois qu'au sens validé, j'ai deux normes, parce que troisième, il y a un petit problème technique où il y avait quatrième, enfin je sais pas, il fallait plus de maîtres ou plus de nationalités, parce qu'ils pensaient que c'était considéré, donc ils m'ont compté au départ, genre ils m'ont dit que ça devrait aller, mais finalement, non, j'ai que deux normes.
D'accord.
Mais bon, je ne me presse pas, parce que enfin, de toute façon, il y a des autres critères aussi, il faut remplir, donc... Enfin,
oui, il faut le classement, il faut aussi le classement ELO qui dépasse 2400,
oui, c'est ça. Oui, bien sûr que je n'ai pas encore, donc je ne suis pas du tout précis à ce sens, et enfin, de toute façon...
Mais tu n'en es pas loin, parce que tu as...
Non, normalement non, parce que enfin, j'étais très prêt à effectuer, même genre 4 fois effectivement je pourrais faire, donc j'ai officiellement 2 fois, mais donc je pense que ça va venir forcément.
Ça va venir tout seul.
Voilà.
Ça va se faire en temps venu, oui, on suppose que oui, ça devrait finir par tomber, parce que tu es vraiment à la toute limite, et on sent que oui, il manque pas grand chose pour que ça puisse se faire. Alors si tu veux bien, on va faire une première pause dans l'émission, hein, pour reposer oui. nos auditeurs après ce parcours fulgurant, hein, qui nous amène en France. Et puis après cette pause musicale, on va revenir pour bien entendu bien voir maintenant ta carrière en tant que française maintenant, et puis tes titres, alors que tu accumules ces dernières années, ce parcours qui fait de toi une des stars des échecs féminins en France, hein, qui est devenu et maintenant un pays très fort, bon, alors, aux échecs mixtes très nettement, mais aussi aux échecs féminins, puisqu'on a une des meilleures équipes du monde en termes de niveau. On va en parler juste après. Donc pour voir ta carrière française. Alors tout de suite une première pause, enfin une pause musicale. Est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Fréquence Diagonale, Nino? Tu sais pas, non?
Oui.
Elles sont sous licence libre comme le podcast, voilà. Vous avez le droit de le diffuser comme bon vous semble, voilà. Donc à tout de suite après cette pause musicale.
À tout de suite.
de retour sur Fréquence Diagonale, toujours donc avec la championne de France 2014 et en route, pourquoi pas, vers un autre titre en 2015. En tout cas, elle a gagné les deux dernières éditions, c'est Nino Meizuradze. Alors Nino, on a vu ta première période avec évidemment cette carrière qui a démarré toute jeune en Géorgie, et puis c'est arrivé en France où tu te redécouvres une passion pour les échecs, au départ comme amateur, et puis tu te fais repérer donc par Evry Grand Roc, tu nous l'as dit. Et alors donc, comment se passe maintenant, à partir de cette période, ton intégration en France? Comment tu vas gravir les échelons de la compétition et puis arriver à ce premier titre de championne de France?
Oui, donc, comme je disais, j'ai commencé un petit peu comme ça, pour le plaisir, en fait, les échecs, la reprise, donc. Et puis, je crois que c'était en 2009, ma première participation au championnat de France.
Oui.
À l'époque, donc, à ce moment-là, on jouait à 6 joueuses qualifiées pour la finale. Et pas terrible, il fallait dire. Ma première participation, ça s'est passé moyennement bien. Mais c'était une bonne expérience, donc c'était la première fois. Bon, j'ai fait pas mal de fautes, je me rappelle. Comme quoi, enfin, j'étais pas toujours brillante, ça dépend de période. Et puis, par contre, je crois que c'était déjà l'année suivante, ou c'était 2010 ou 2011, où je deviens déjà vice-championne de France, en fait, à Caen.
Oui.
Là, c'est mieux passé déjà. Et c'est le moment d'un peu, c'était l'année, j'avais monté mon classement très rapidement de 2330, je crois, un truc comme ça. Donc,
oui.
Déjà, même au niveau du classement, j'étais une des favorites du tournoi, donc ça s'est passé comme planifié, quoi. Et puis, je ne sais pas, en fait, à vrai dire, petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner et comme tu as dit, finalement, je ne travaillais pas en tant que juriste, donc je me suis reconcentrée plutôt et retombée dans le monde des échecs. Ça se fait plutôt, d'une partie grâce à Evry Grand Roc aussi à l'époque, parce que bon, vu que c'est un club qui me propose quelque chose, ou d'entraînement, ou etc. Donc, ça motive quand même quand on a quelque chose, en fait, pour le travail qu'on fait, en fait, que ce soit un peu apprécié. Donc, après, par contre, ce qui m'a motivé surtout, c'est de devenir crâne-neuf féminine internationale. Donc, comme je disais, j'ai gagné ma première norme en Croatie. C'était un tournoi fermé international féminine pour la norme qui s'appelait Gondel Island, un truc comme ça sur Kark.
Oui.
Et j'ai donc remporté ce tournoi avec ce turnoff, je crois, et j'ai fait ma première norme de grand maître. J'avais un peu du mal à croire parce que comme j'étais à l'époque encore pas tout à fait dans les échecs encore, ça me faisait bizarre que quand j'ai vu la liste à l'époque en France, avant de revenir dans les échecs, ou quand j'ai joué mes premières Open, en fait, avant de réellement recommencer à jouer aux échecs. Et j'étais déjà genre 5e en France par le classement, à peu près, donc 6e, 5e. Donc je me suis dit, wow, c'est un peu bizarre, parce que j'ai pensé qu'il fallait travailler pour ça, je ne sais pas, 20 heures par jour, quoi. Plus tard, avec ces normes, j'ai fait, je crois, ma deuxième norme dans un tournoi de Malakoff, à Paris. Où j'ai fait en même temps un norme de maître international mixte, même une ronde avant la fin, en fait. J'avais fait un très très bon tournoi qui était un Open, donc c'était ma deuxième norme de grande maître féminine. Et puis pour la troisième fois, c'était un peu coïncidence parce que j'ai fait plusieurs Open, à vrai dire, en Croatie, et chaque fois, en fait, j'avais très bons résultats, mais encore plus contre les joueuses croates, en fait. Donc, à un moment donné, l'organisation ne voulait plus trop m'inviter parce que l'idée de faire le tournoi de normes, c'était surtout pour eux que les filles locales arrivent à effectuer les normes, pas moi, en fait. Même si c'est pas effectivement, évidemment, il n'existe pas ça directement, mais enfin, ça se sentait. Et puis, même en plaisantant, il disait que oui, Nino, il faut plus l'inviter parce que j'aime aimer tout le monde, donc bon.
Ouais.
Et puis, il s'est passé qu'au dernier moment, il y avait un désistement d'une des joueuses. Et donc, ils étaient obligés à me réinviter, en fait. Et j'ai encore gagné le tournoi. J'ai fait ma dernière et troisième norme de grande féminine comme ça, en fait. C'est encore en Croatie. Et puis, ce qui est plutôt boosté, on va dire, ma carrière de joueuse d'échecs, si on appelle comme ça, et ce qui m'a orienté vers ça, c'est énormément de propositions de la part des organisateurs étrangers surtout. C'est-à-dire, j'avais vraiment les invitations partout dans le monde. J'ai fait, par exemple, comme je disais, les tournois au Canada, j'ai fait les tournois même au Népal, par exemple. Donc, vraiment, dans partout, dans tous les côtés du monde.
Même au Népal
Oui, même au Népal.
Il y a des tournois.
C'est très bien passé, c'était très, très médiatisé, d'ailleurs.
Ah oui.
Et je suis déjà allée, par exemple, en Polynésie française, à Tahiti plusieurs fois pour promouvoir les échecs là-bas et de nous les simultanés, les choses comme ça, parce qu'ils m'ont invité gentiment. Et puis aussi, le fait de jouer dans les ligues, dans les clubs différents, c'est-à-dire oui. Pâques pour Evry, par exemple, etc. Plus tard, qui est échangé par Bichuler, d'ailleurs, et c'est mon club d'aujourd'hui où je suis très, très contente, d'ailleurs, d'y être. Et en fait, à un moment donné, par exemple, j'ai joué un entame en Espagne pour Barcelone, j'ai joué en Suisse, j'ai joué en Allemand, j'ai joué pour Portugal, pour le club d'étape à Vieille Compagnie. Etc. En fait, j'ai joué vraiment partout dans le monde pour le championnat du club, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que justement pour le voyage que j'ai ces offres, parce que autrement, comme je disais, malheureusement, en absence de système concret en France pour les professionnels qui est quasiment inexistant, c'est quasi impossible de construire quelque chose, une vraie carrière à ce sens, parce que on n'a pas de salaire, on n'a pas de retraite, on n'a pas de, je sais pas. Donc, on est payé juste par rapport à, même en étant en équipe, on est juste payé une seule fois au moment d'être en équipe et c'est tout. Mm-hmm. Et ce n'est pas beaucoup. Alors, réellement, ce n'est pas beaucoup par rapport à la France, c'est à peu près salaire SMIC presque. Donc, je veux dire, malheureusement, c'est pas suffisant, effectivement, pour les jeunes motivés qui ont envie de continuer dans les échecs, ça te motive un petit peu. Mais justement, par ces offres internationales, donc, c'est possible de vivre avec ça, parce qu'autrement, mieux de partir et faire une carrière plus normale dans les domaines plus reconnus, en fait.
Oui, d'accord. Donc, c'est oui. Au final, cette...
Et puis, donc,
c'est...
Oui. Au final, ce qui s'est passé, donc, oui, en tant que grand-mère, j'ai voyagé vraiment, vraiment partout dans le monde. Maintenant, je ne peux pas citer tout et j'ai joué partout. Et puis... certains des gros succès, c'était évidemment aussi avec l'équipe de France qu'on a vraiment fait des exploits. C'est-à-dire, notamment, je citerai notre premier grand exploit, c'était en Grèce, c'était 2011, je crois, pour championnat d'Europe. Alors, championnat d'Europe, c'est une compétition par équipe, je mentionne. C'est une compétition très très dure, hein, je peux vous garantir, où les équipes arrivent avec 2-3 entraîneurs sur place. Avec une semaine plutôt certaines équipes pour adaptation, avec un psychologue. Et nous, on est arrivés de nulle part, sans préparation, et etc. Juste avec un entraîneur. Et on a terminé cinquième à l'époque. Donc, je trouve que c'était vraiment très, 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 très bon résultat pour les filles. On a bien contribué tous, on a vraiment tous bien joué. Et puis, l'autre résultat, c'était effectivement en 2012. Olympiade donc à Istanbul 2012 où on termine 7e dans le monde donc.
Oui, c'est pas mal.
Et vraiment pas mal parce que justement encore une fois j'ai mentionné que comme tu as déjà dit Stéphane, d'une part j'ai l'image de Géorgie parce que je les connais, ils sont tous mes amis, les membres d'équipe et je sais comment ça se passe chez eux, combien ils s'entraînent, combien ils ont de rencontres organisées par le ministère du sport etc. où ils s'entraînent pendant un mois retirés dans les forêts en fait. Donc, d'autre part, j'ai vraiment, effectivement, comme beaucoup de joueurs d'échecs, j'ai les amis partout dans le monde, donc je peux facilement questionner, voir comment ça se passe chez eux ou chez elles. Et pareil, en fait, elles ont beaucoup d'entraînement, beaucoup, beaucoup plus que l'équipe de France ou beaucoup que n'importe qui, en fait, ici. J'ai souvent mentionné que même, par exemple, l'équipe d'Autriche, qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition parce qu'elles ne sont pas encore suffisamment fortes, elles ont un entraîneur salarié par la fédération qui donne les cours sur l'année, toutes les semaines. C'est, je veux dire, on n'est pas dans les mêmes conditions, donc c'est très difficile à concurrencier ce type d'effectivement d'équipe et les équipes. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers, à mon avis, on a le droit d'être fiers de nos résultats, c'est sens.
Mais ça, alors ça,
donc,
ça,
nous,
ça,
on s'entraîne juste toutes celles d'habitude, voire même sans entraîneur, on arrive après, voilà, sur place, on essaye de faire le maximum, quoi.
D'accord, mais ça s'améliore un peu en France, puisque maintenant, il y a quand même, il y a un entraîneur, je crois que c'est Mathieu Cornette, qui s'occupe des filles.
Oui, oui,
des
d'ailleurs, il s'occupe bien, et il nous a aussi permis, effectivement, d'accrocher ce titre, je dois dire, mais ce que je dis, c'est qu'avant, on n'a pas de préparation. En tout cas, depuis que je suis en équipe, et ça, c'est donc à partir de 2009-2010, je crois.
Oui.
J'ai jamais eu aucune rencontre avant l'Olympiade, genre une semaine, voire 5 jours, on n'a pas.
Il n'y a pas de...
Les autres équipes, quasiment ouais. Tous ce que je connais en tout cas, toujours, ça veut dire au moins une semaine auparavant, mais les pays pro, évidemment, d'accord. 2 semaines, 3 semaines.
Il manque un stage de préparation avec l'entraîneur au moins d'une semaine avant, tu penses, avant les grands événements.
Oui, la France a fait effectivement très bien, a priori, au passé, c'est d'après ce qu'ils me disent. Mais en tout cas, depuis que j'ai fait une équipe, je n'ai jamais vu. Et je sais que même la dernière fois, il y avait une fois un moment où ils ont proposé ça que aux garçons et rien aux filles. Donc, il y a aussi ce type de problème en France que... ils trouvent que comme les garçons ont plus de chance peut-être ou un truc comme ça, parfois il y a plus de tension sur les garçons, qui peut avoir certains sens, évidemment, je ne vais pas critiquer tout, mais en même temps, à un moment donné, enfin, si on n'est pas... En fait, ce qui se passe, il attend plutôt qu'on devienne très très forte, l'Estar Brian mondial, et puis dans ces cas, on aura le soutien. Sauf que je pense que le système doit être fait que justement la fédération, l'État aide ces jeunes à se former à ce sens justement. Parce qu'une fois qu'on est très grand fan, on n'a plus besoin d'aide en fait, au contraire. Et ça doit être plutôt justement de nous amener jusqu'à là, d'aider un peu, voilà, d'y arriver. Ouais. Parce qu'on n'a pas réellement le soutien, il faut dire, parce que bon, je sais pas, enfin... en France, le système est très compliqué d'ailleurs, il faut dire, j'ai essayé d'un peu comprendre la situation. Et je vais juste profiter, si tu me permets, de dire que, comme en France, il y a une sorte de financement qui vient de licenciés, du coup, c'est pas le cas en Géorgie, en fait. Les licenciés, enfin, on n'a quasiment pas d'amateurs, ils jouent juste chez eux dans la maison, mais ça, c'est un mauvais côté d'ailleurs de Géorgie, et c'est vraiment basé sur les pros.
Oui.
Du coup, il n'y a pas de l'argent de licence, je veux dire, qui financera quoi que ce soit pour les pros. Et en France, il y a certaines sortes de jalousie, je dirais pas, mais quelque chose de ces sortes, où chacun va parler de quelque chose que nous, on n'a pas d'entraînement suffisant que les autres équipes, etc. Il y aura toujours les amateurs qui vont arriver, mais non, on ne va pas dépenser l'argent sur les pros, déjà auprès de trop d'argent, etc. Ce qui est complètement faux, d'ailleurs. Parce qu'on a ni salaire, comme j'ai mentionné, ni rien, et ces gens sont un peu, à mon avis, dans la fausse route, pensant que nous, on ramasse beaucoup d'argent, c'est vraiment complètement faux. Mais ils ont pas ennui qu'ils pensent que c'est leur argent de licence qu'ils payent et ça doit être dépensé sur eux et pas sur nous. Parce que la masse des amateurs, c'est plus grand que celle de, effectivement, la masse des pros qui arrivent à la fin. Mmh. Et du coup, on est toujours dans la minorité, en fait. Quelque part, je trouve qu'en France, les professionnels, c'est une des minorités, différentes minorités, et c'est difficile d'obtenir quelque chose, en fait, réellement.
D'accord, ouais. Oui. Oui, alors tu mets en évidence le fait que les modèles économiques sont différents entre les générations, entre les fédérations ici, et que ça a un impact sur, bien sûr, comme tu viens de le dire, sur où va finalement, où vont les finances, selon les modèles géorgiens, par exemple, les Français que tu connais très bien. Et oui, on comprend très bien le pourquoi. Oui, c'est vrai que il faudrait peut-être qu'il y ait un mix des deux.
On disait, est-ce qu'il faut créer effectivement une sorte de vitrage, justement ce que tu me disais au début de l'émission, pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, est-ce qu'on doit créer des stars et les valoriser pour montrer à eux, pour donner à nous justement?
Et voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Bon, je pense que c'est important d'avoir des modèles aussi, et il faut trouver bon équilibre.
En fait, actuellement, la France est quasiment uniquement basée sur augmentation des masses pour avoir plus de licences, plus de l'argent aussi à ce sens, et plus de popularité, qui est importante évidemment, et du coup... Tout ce qui est côté pro, enfin, depuis plusieurs années, ce que je regarde, peu importe tellement le changement de direction ou pas, enfin, au niveau de politique, c'est plutôt les masses, réellement, initier les masses et uniquement les masses, en fait. Donc ça, c'est vraiment deux différents mondes, c'est vrai.
Voilà, c'est deux approches différentes, et effectivement. Bon, mais c'est bien, il faut, de toute façon... Il faut toujours essayer d'améliorer les choses, donc il faut en parler, et c'est bien de dire que... Moi, je suis un peu d'accord au fait, bien sûr, il faut qu'on ait aussi des stars, parce que on a besoin de stars pour avoir envie de jouer, parce que, par exemple, moi, pour parler de ma propre expérience, bien, moi, c'est parce que j'ai vu Bobby Fischer, ou Kasparov, ou Karpov, que j'ai eu envie de jouer.
En fait, même, il faut comprendre, même Carlsen, il serait pas Carlsen s'il avait pas d'aide, en fait, je veux dire, donc...
Surtout en Norvège,
à un
oui.
Donné, il faut les soutenir aussi, à mon avis, donc même pas.
Ben, surtout en Norvège, où effectivement, en Norvège, il n'y a pas forcément autant de joueurs que, évidemment, dans nos pays. Et,
Justement, maintenant, ça arrive parce qu'il est Carlsen, et voilà. Ça, on a une très bonne image des échecs, et tout le monde a un décimètre, et j'ai vu énormément de jeunes J'étais à Reykjavik récemment en Islande et il y a énormément de Norvégiens qui jouaient. Je vois que ça se travaille beaucoup, beaucoup chez les jeunes. Justement.
Voilà, ça crée une émulsion, voilà, ça a créé de l'enthousiasme pour, voilà, pour la pratique. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plus de tournois en Norvège aussi maintenant. Donc ils se sont mis aussi à organiser des tournois. Donc ça, on voit bien que l'impact qu'a une star qui se révèle dans un pays. Et c'est vrai qu'il faut, bon, faut trouver un bon équilibre aussi, parce que c'est important d'avoir aussi une base.
C'est une question d'équilibre. Je ne suis pas évidemment pas d'accord avec le système non plus où toute attention sera sur les pros, en fait, évidemment n'importe quoi également.
Oui.
Mais je trouve qu'en fait, tous les groupes ont droit à quelque chose, et même si on est dans la minorité, les pros forcément, ou ce sera un autre groupe de minorité, etc., il faut encore un petit peu redistribuer quand même ouais. un peu équitablement les choses. Et je n'ai pas l'impression que c'est le cas en France. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour y parler, en parler, donc c'est un peu compliqué comme c'est. Enfin, de toute façon, à mon avis, ça. Je dirais que même prochaines 50 ans, voire plus, à mon avis, il n'y aura pas de système, ce ne sera pas formé. On est très très loin de parler ici des salaires ou des choses comme ça pour les grands maîtres, donc. Oui. Je ne sais pas comment ça va s'évoluer exactement.
Ah, ça, on verra. Donc, oui. Alors, on arrive au point. Où tu es maintenant bien implanté en France, donc tu nous l'as dit, avec toutes ces offres internationales, ça t'a permis d'envisager de t'y mettre encore plus et de professionnaliser ton parcours. Et alors donc on va arriver donc à ces derniers moments où tu viens d'enchaîner deux titres de champion de France finalement. 2013 et 2014, oui. Tu vas nous en parler, comment ça s'est passé, ce qui fait de toi maintenant une des stars françaises féminines des échecs, avec bien sûr, on peut citer Sophie Millet, bien sûr, qui a aussi été plusieurs fois championne de France, ou Almira Skripchenko, bien évidemment aussi, qui sont deux autres stars des échecs, et il y en a d'autres, je ne vais pas citer toutes les filles qui justement peuvent donner envie aux jeunes filles aussi, en particulier, mais à tout le monde en général, bien sûr, de jouer aux échecs. Et donc, deux titres de championne d'affilée, ça c'est tout à fait exceptionnel. Alors raconte-nous comment ça s'est passé et comment tu abordes maintenant avec ces titres la suite. Et puis aussi cette année 2015 exceptionnelle, puisque tu cumules les titres, hein, puisque tu viens aussi de remporter le top 12. Alors voilà, raconte-nous donc ces deux dernières années qui sont quand même les années Nino, hein, je crois qu'on peut dire ça. Tu es vraiment au top du top actuellement. Hein.
Bah, effectivement, d'après être devenue vice-champion de France, et puis je crois l'année suivante, je ne sais plus, j'avais participé, mais c'était, je crois, rien d'exceptionnel non plus. Et puis... effectivement, c'était donc en 2013 que j'ai gagné le championnat sans défaite en plus. J'ai fait que des nuls et des victoires. Donc. Comment dire, en fait, c'était quelque part, je m'y attendais parce que je pense que plus on grandit, en plus j'ai eu la famille, maintenant j'ai un enfant aussi, etc. Certains gens se décrochent et ça commence à descendre le niveau. Et dans mon cas, c'est tout contraire. En fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais joué si bien que maintenant. Et j'ai continué à monter selon moi parce que j'ai travaillé aux échecs maintenant. Moi-même, en fait. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui connaisse les détails, mais c'était réellement assez difficile pour moi, le premier titre remporté. Pourquoi? Parce que j'ai eu récemment un enfant, à l'époque, donc. Et j'ai presque sorti d'hôpital, en fait, on va dire. Ça faisait un mois et quelques jours, en fait, que j'étais sortie. Oui. Donc, ça, c'est une autre question aux échecs d'ailleurs, les joueuses et la maternité, ou voir la famille. Parce que justement, parfois, on parle qu'après la différence dans le niveau homme-femme, ça peut aussi se différencier par rapport à ses obligations de femme, voire, etc.
Bien la sûr. Famille.
Mais justement, je pense que c'était une très très belle preuve qu'un jeune maman peut également gagner le titre et continuer à jouer sans problème. Mmh. Et je voulais aussi remercier vraiment ma famille qui m'a beaucoup soutenue à ce moment parce que malgré tout, je ne voulais pas participer parce que mon enfant était trop petit à l'époque et enfin, j'étais en train d'allaiter, etc. C'était très compliqué de délaisser l'enfant comme ça. Donc mon réponse c'était non pour la participation. Mais c'est mes parents qui m'ont presque viré de maison pour y jouer. Donc... Parce que c'est ma maman qui a pris en charge de garder mon bébé et puis ils m'ont dit que non, il fallait quand même que c'était la finale, j'étais qualifiée et quand ils m'ont posé la question de mes acceptations par exemple, comment je voyais mes chances à ce championnat, je leur disais que je me voyais bien de terminer dans le top 3 par exemple, et aussi je sentais qu'il était très probable que je remporte le titre. Mmh. C'est possible, sans paraît. Donc j'étais très très contente que je ne suis pas allée pour rien, et effectivement j'ai réellement remporté mon premier titre, justement cette année où j'ai dû faire ce difficile voyage en délaissant mon bébé à la maison.
Avec une finale, notamment un départage d'anthologie, hein, puisque vous êtes terminé à égalité après le tournoi, et il a fallu vous départager, c'est ça, hein?
Oui. Donc avec Mathilde, donc qu'on a cumulé le même nombre de points que je m'étais, je ne sais plus, je crois que c'était 8 points, si je ne me trompe pas, sur 11.
Oui.
Et puis on avait la départage dont je remportais. J'étais, je sais pas, assez confiante. Je sentais bien ce match aussi. Et effectivement, j'ai terminé par remporter. Donc, même si c'était pas complètement facile, évidemment, parce que déjà Mathilde, c'est une bonne joueuse aussi, hein, évidemment, comme beaucoup d'autres joueuses qui sont des concurrentes sérieuses. Et avec Mathilde, je me rappelle que on a eu donc d'abord des partages au rapide où j'ai gagné avec les blancs plutôt sans grand problème. Puis j'avais les noirs et je pensais que c'est là que ça se terminait le match, à vrai dire. Mais avec les noirs, j'ai eu une ouverture pas très claire et je suis tombée sous l'attaque. Et c'est la seule chose qu'il ne faut vraiment pas faire contre Mathilde. C'est l'attaque, elle est vraiment très bonne là-dessus.
Oui, elle est très agressive.
Je me rappelle, elle a même une partie gagnée contre Stéphanoa, je crois, à ce sens, où justement elle fait jouer les maths ou un truc comme ça. Mm. Et en rapide, même si en réalité c'était pas gagnant et je pouvais me défendre, en réalité faire nul, et donc c'était suffisant directement pour remporter le titre. En rapide, c'est très difficile à réagir sous la pression des dames, sous l'attaque. Et du coup, j'ai fait quelques mauvais coups. Elle a bien joué. Du coup, j'ai perdu cette partie. Donc, ça a égalisé de nouveau le match. Et donc, je sais que dans les deux dernières parties de Blitz, première partie, j'ai gagné avec les blancs, sans problème en ouverture. Et puis, avec les noirs, j'ai eu une ouverture où il n'y avait pas d'attaque. Donc, cette fois, c'était plus facile pour moi de remporter cette partie. Donc c'est comme ça que c'était un peu long chemin pour le premier titre du champion de France. Donc c'est comme ça que j'ai remporté.
Voilà, donc un moment d'anthologie pour toi, mais aussi pour les Français, hein, parce que c'était ton premier titre, hein, donc une nouvelle championne. Hein, et donc tu deviens forcément très très connu en France à ce moment-là. Et puis ça te suffit pas, hein, puisque à Nîmes, tu récidives. Hein.
Donc il faut dire qu'en fait, entre ces deux tournois, j'ai vraiment joué partout dans le monde, beaucoup. Maintenant, je ne sais pas réellement tout citer, mais... j'ai fait un peu tour du monde entre-temps. et puis, parfois, mon classement peut être très trompeur parce que ça descend très rapidement, ça monte très rapidement. Oui, donc, je disais qu'entre ces deux tournois, j'ai énormément joué partout dans le monde parce que j'ai eu beaucoup d'invitations et j'ai fait vraiment tour du monde, je peux dire. Et je disais que même sur un des mois, par exemple, comme je disais, en Angleterre, en mois de décembre, j'ai enchaîné 3 tournois, donc sur un seul mois, j'avais fait 27 parties classiques, par exemple. Et ce qui est énorme quand même sur 30 jours. Donc j'avais fait des tournois comme ça, et évidemment, je regarde même plus mon classement, parce qu'au niveau des lots, par exemple, classement international, évidemment, chaque fois, ça remonte et ça descend très très rapidement chez moi. Par exemple, il suffit que je fasse un super tournoi, mais après je laisse un pion contre un adversaire moins fort et je perds. Le classement est rapidement gâché, ou le contraire, si je joue bien, si j'enchaîne plusieurs tournois bien, du coup ça peut monter très rapidement, etc. Donc souvent les gens s'étonnent comment je fais pour gagner ou perdre autant de points dans si peu de temps, mais pour moi c'est normal, vu le nombre de tournois que je fais.
D'accord. Et donc, du coup, cette multiplicité de tournois à l'étranger depuis le titre de 2013 te met dans de bonnes conditions pour aborder le championnat 2014. Alors, comment
il s'est passé? Pour moi, c'est une sorte d'entraînement, parce que quand je suis dans les tournois, justement, c'est là que je prépare quand même les ouvertures, je répète, je prépare les adversaires, tout simplement. Et puis, ça me met quand même dans les conditions d'entraînement. Plus facilement, et justement je pense que je suis arrivée à se préparer pour le deuxième titre. Et avant j'avais encore des bas et des hauts, mais cela dit, il faut quand même dire qu'avant ce deuxième titre de championnat de France, j'avais fait un excellent top 12 où j'ai fait meilleur score de top 12 cette année, donc l'année dernière, avec je crois c'était 8 points sur 10 ou 8,5 sur 10. avec un performance de 2500, quelque chose. Donc, et d'ailleurs, c'est là que j'ai fait aussi une norme de mètre mixte. Donc, justement, j'avais joué à tel tournoi, donc effectivement, les gens ont vu que j'étais même capable d'être dans une très bonne forme.
Oui.
Mais puis, c'était pas un tournoi facile parce qu'il y avait pas mal de pression psychologique aussi, évidemment, pour regagner un titre. C'est jamais facile, à mon avis, parce que les gens attendent maintenant qu'est-ce qu'elle va regagner, est-ce qu'elle va pas regagner, etc. Mais justement, je pense que j'ai déjà assez bien le stress, en tout cas j'essaye, donc à ce sens, j'avais pas beaucoup de difficultés, juste j'arrive pour faire les belles parties, pour prendre le plaisir. Donc j'oublie pas cette côté plaisir que les échecs m'apportent, donc c'est important.
Oui.
Et puis je joue ce que je peux, en fait, je vais pas me culpabiliser, etc., je vais faire mon mieux, donc c'est tout simple. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Et donc, deuxième fois, j'ai finalement regagné encore mieux avec plus de points, 8,5 sur 11, toujours sans défaite. Et voilà, bah, c'était mon deuxième titre.
Donc, la confirmation. Et alors, dans la foulée, donc on arrive à cette année où tu gagnes aussi un autre titre, puisque tu deviens championne de France, cette fois par équipe, hein, avec ton club. Hein.
Oui, alors là, on a décroché tous les titres, puisque d'abord... on a gagné top 12 mixte, où j'ai joué donc sur l'échiquier féminin, comme on appelle.
Oui.
Et ça, c'était une grande victoire pour mon club, parce qu'on a toujours rêvé de décrocher ce titre. Donc, concurrent principal Clichy, bien sûr, qui a toujours décroché quasiment tous les titres. Une équipe très forte et très difficile, là, effectivement, de concurrencier. Et puis, auparavant, on a déjà été vice-champion de France l'année d'avant, mais cette fois, c'était la première fois qu'on a décroché le titre. Et après ça, tout récemment, on a encore décroché un autre titre, donc ça c'est le top 12 féminin,
oui.
Où on est également champion de France. Et ça, c'était aussi une très bonne surprise, puisque on était qualifié en semi-finale, et finalement, passerait la phase de semi-finale, on resterait sur quatrième place si on aurait remporté le championnat. Et il faut dire que la concurrence était assez importante et assez élevée. D'ailleurs, c'est une chose que j'aime bien, que dans ces compétitions, le niveau monte tous les ans. Par exemple, cette année, pour Signou, par exemple, qui était invité à jouer, etc., les autres vont jouer mondial. Et donc, gagner contre ce type d'équipe et réussir à passer, devenir champion, c'était quand même une très bonne nouvelle pour notre équipe.
D'accord, donc ça te fait trois titres. Hein. On peut dire que là, t'es vraiment au top du top, au sommet de la France. Donc tu arrives finalement à ce championnat. Tu vas arriver à ce championnat 2015 à Saint-Quentin dans une position quand même de femme à abattre. Hein. Je crois que là, tu arrives quand même auréolé du titre de favorite. Moi, je crois qu'il faut le dire parce que tu viens avec deux titres quand même d'affilée. Hein. C'est toi qui tiens les deux derniers titres et deux titres de championne par équipe. Donc forcément, tu dois t'attendre à ce que l'opposition essaie de fermer les colonnes hein, de façon à ce que tu ne passes pas.
Non, je pense que l'opposition sera très très forte, effectivement, comme tu es acharné surtout cette année, parce qu'ils ont compris que c'était pas forcément une coïncidence ou un accident que j'ai gagné mon premier titre et effectivement que je suis une concurrente effectivement très sérieuse. Et je pense que là, elles vont être plus sérieuses que jamais, en fait, encore plus, et mieux préparées encore, probablement. Par exemple, Almira, qui a participé déjà l'année dernière, mais probablement, elle n'était pas forcément super bien préparée, on va dire comme ça. Je sais pas, peut-être qu'elle est venue comme ça pour en pensant que ce serait suffisant par rapport à son niveau à nous battre ou un truc comme ça. Mais finalement, l'année dernière, elle n'était pas dans la meilleure forme, il faut dire, parce qu'elle n'était pas réchauffée, on va dire. Elle a aussi des enfants, c'est compliqué pour elle aussi de juste arriver, jouer, tout de suite montrer les résultats. On parfois ressort aussi au niveau des formes tactiques, comme on sait. Et cette année, je pense que vu qu'elle a encore envie de rejouer, c'est à mon avis pour décrocher le titre. Elle va essayer réellement, justement, se venger, entre guillemets. Y compris Sophie aussi, je pense que avant elle a toujours décroché beaucoup de titres, donc à mon avis, effectivement, elle considère sérieusement qu'elle va essayer de redécrocher le titre, comme au passé. Donc
oui.
J'aurai une concurrence aussi intéressante. Moi je suis contente, moi j'aime bien la concurrence. j'aime bien que ce soit un peu tendu au niveau de, je sais pas, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. J'espère qu'on va tous jouer un autre maximum pour montrer les belles parties en fait.
Voilà, et donc on devrait avoir cette année un championnat de France féminin plus explosif que jamais. Hein.
Oui, assez sens, oui, effectivement, voilà. Mais il y a pas mal de personnes qui rêvent d'écrocher le titre, donc au niveau très très sérieux, je veux dire, réellement il y a de bonnes chances, on ne sait pas en fait, ça dépendra des parties, à mon avis. Pas mal de joueuses, on a réellement de chance effectivement de montrer un résultat assez spectaculaire, donc on verra qui va être meilleur.
Voilà, donc ça va être passionnant à suivre, de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les favorites vont être au niveau, vont être préparées.
Oui, aussi, effectivement, nous on parle comme ça, mais qui sait, peut-être il y aura une jaune aussi qui va monter, qui va tous nous massacrer ou un truc comme ça.
Est possible après, bien sûr. Voilà. Voilà, donc passionnant, avec donc une triple championne de France qui va arriver à Saint-Quentin, à suivre. Donc merci beaucoup Nino pour cette émission, où on a revu ta carrière et ton parcours qui est tout à fait exceptionnel, à cheval sur ces deux pays, Géorgie et maintenant France, avec donc ces résultats qui t'ont amené donc à être une star maintenant des échecs français. Avec d'ailleurs beaucoup d'invitations, on a pu voir cette année, tu as fait des simultanés, tu as été convié à faire des événements.
Oui, d'ailleurs là je pars au Canada, donc mon agenda est toujours plus ou moins plein. Là il y a un championnat de francophonie à Montréal où je suis invitée, donc je pars dans 5 jours ou une semaine.
Oui.
Et puis, bon, comme j'ai un autre championnat de France, donc j'ai pas planifié beaucoup de tournois par rapport à ça pour me laisser le temps également de se reposer.
Oui.
Après Canada. Et après, championnat de France, d'habitude mon calendrier est complètement plein, mais cette fois j'ai pas forcément planifié beaucoup de choses en avance. Par contre, ces données déjà planifiées, c'est Nouvelle-Zélande à Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Donc il y a un tournoi où j'ai été invitée, donc je suis invitée, donc. Je vais partir là-bas et passer tout décembre en Nouvelle-Zélande pour un tournoi. Puis j'ai eu une invitation en Australie, après Nouvelle-Zélande, mais finalement j'ai dû planifier autrement et à la place je pars au Japon, finalement pour passer les vacances tout simplement. Donc après le tournoi de Nouvelle-Zélande. Donc le reste on verra comment ça va s'organiser, j'ai pas forcément envie de faire tous les plans en avance, on verra.
D'accord, donc là ce sont de beaux voyages. On espère quand même que tu en profites pour visiter un peu les endroits où
effectivement
où tu vas, donc tu parcours la planète, qui peut faire envie. Joueur d'échecs, on peut être invité dans le monde entier, comme tu viens de nous le dire. Bon, alors évidemment, il faut travailler avant, parce que il faut atteindre le niveau. Merci beaucoup, Nino, d'avoir passé cette heure avec nous sur Fréquence Diagonale. Et puis,
merci
on te
à toi,
souhaite.
Stéphane, et merci à la public qui nous écoute.
Ouais. Et on te souhaite le meilleur, bien entendu, pour la suite et pour ce championnat de France 2015 et l'ensemble des événements à venir pour toi, dans les meilleures conditions, et de décrocher ce titre de maître international toute catégorie que tu es très proche de pouvoir obtenir. Donc ça devrait pas trop tarder dans les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir
à tous. Et donc je vous laisse avec notre générique fétiche sur Fréquence Diagonale, Broken Embraces. Au revoir.